depuis que j'ai 2 ans et demi. Donc, quand mon papa est parti, il n'avait pas de maison. Et moi, je ne savais pas où était mon papa et ma maman non plus. Du coup, moi, je faisais beaucoup de crises, je tapais partout. Bah, j'étais petite, donc je pense pas que je comprenais très bien.
Je me souviens que ma mère est partie à ce moment-là, mais je comprenais pas trop pourquoi. Et voilà, juste elle partait très longtemps, mais du coup, je comprenais pas trop ce qui se passait.
Moi, bah, j'ai certains copains qui ils ont même pas connu leurs parents ensemble, donc c'est moins triste pour eux que certains qui l'ont déjà connu.
Voilà, s'ils restent ensemble juste pour protéger les enfants, ça ne sert à rien parce que de toute manière, les enfants le comprennent en fait.
Moi, ils se sont quittés quand j'étais jeune en fait, genre je m'en rappelle plus du tout, donc enfin, ils s'entendent très bien, donc je suis pas triste de dire mes parents sont séparés. Et ça a des avantages, hein. Il y a deux fois toutes les fêtes en fait, il y a des trucs comme ça pour enfants, c'est cool.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aurais pu commencer cette émission en vous rappelant les chiffres. Souvent, on précise d'ailleurs la différence entre la capitale et le reste de la France. Bonjour la culpabilité des Parisiens. Peu importe, vous n'avez pas besoin de statistiques, vous le savez très bien. Les couples qui se séparent, c'est fréquent. Est-ce pour autant banal? À l'échelle d'un enfant, pas du tout. Est-ce pour autant une tragédie? Pas forcément, encore heureux. La séparation des parents occasionne un chagrin qui mérite d'être reconnu, nommé et surtout pas balayé à grand renfort de statistiques, sans pour autant culpabiliser les parents qui se séparent, surtout pas. Alors marchons sur cette ligne de crête aujourd'hui et posons-nous des questions utiles. Quel récit proposer aux enfants pour accompagner ce chapitre de leur vie? Comment accueillir leurs émotions et comment éviter l'écueil du conflit de loyauté ou celui de la culpabilité? Un film qui sort au cinéma mercredi prochain vient mettre le sujet en image avec une grande subtilité et en assumant le mélodrame. J'ai dit mélo, pas tragédie. C'est parti, quand les enfants se séparent, comment préserver les enfants?
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une étoile est située à 750 années-lumière de la Terre. À combien de kilomètres est-elle de nous? Expliquez. Vous avez 15 minutes. Calculatrices ne sont pas autorisées.
Qu'est-ce que tu fous? C'est la grosse crise entre mes parents. Ah bon? C'est pas possible. Ils s'engueulent. Tous les soirs. Presque. Ça gueule. Un peu. Et ton père? Quand mon père a commencé à dormir dans le salon, il est plus jamais revenu à la chambre. Ah bon? Ils dorment ensemble ou non? Non, ils dorment plus ensemble. Mais tu le dis à personne.
Tout le monde s'en fout, tu sais.
C'est pas encore le gros divorce.
Un divorce? Mais t'es folle ou quoi?
Solange Maserati.
Petite Solange, c'est le titre de ce film qui sort au cinéma mercredi prochain avec la jeune et talentueuse Jade Springer dans le rôle principal, Léa Drucker et Philippe Catherine dans le rôle des parents. Bonjour Axel Repère.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la réalisatrice de ce film. C'est un mélo, disais-je. Est-ce que le terme vous convient?
J'assume complètement et même je le revendique haut et fort. L'enjeu, c'était vraiment de faire un film sur un drame invisible et méconnu, qui est la séparation des parents, avec un prisme vraiment nouveau qui n'a jamais été utilisé au cinéma. Je ne sais pas pourquoi, qui est vraiment de raconter ce drame par les yeux d'un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant perçoit de la dispute de ses parents et de la séparation de ses parents et comment un enfant reçoit ça. Et moi, je voulais que ça soit un mélo parce que je voulais qu'il y ait beaucoup d'émotions et beaucoup de sensibilité et que ça soit pas un cas sociologique ou un cas statistique, que vraiment il y a une forme de très très grande sensibilité dans le film.
Présence très forte de la musique qui vient appuyer les émotions. Tout le monde s'en fout, disait à l'instant la petite Lily à son amie Solange. La voilà la banalité que j'évoquais à l'instant. Tout le monde s'en fout parce que c'est très fréquent.
Bah, la souffrance d'une séparation, c'est juste un cas statistique, comme vous le disiez dans votre préambule, et c'est une banalité totale. Voilà. Moi, j'ai un peu écrit d'après mes souvenirs des années 80 où moi j'étais enfant et c'était vraiment la première génération où le divorce est vraiment arrivé en masse dans les familles. Et en 2021, c'est encore plus répandu que ça ne l'est maintenant et c'est banalisé mais aussi pour des bonnes raisons, parce que c'est normal que les gens se séparent quand ça va plus entre eux. Voilà, moi je suis pour chercher l'amour à un bon niveau plutôt que de rester toute sa vie dans des mauvaises conditions avec quelqu'un. Mais il me semble que c'est un chagrin quand même très profond chez un enfant et qui n'a pas été encore vraiment raconté et discuté publiquement.
Alors, évidemment, il y a eu Génial, mes parents divorcent en 1991, mais c'était un autre registre, disons.
Un registre rigolo. Et par ailleurs, il y a une forme de vérité dans ce titre-là, c'est que le divorce des parents peut être aussi une libération pour un enfant quand la crise a été affreuse et bruyante pendant des années. Et tout d'un coup, c'est une joie retrouvée.
Un soulagement à tout le monde. Soulagement. Je voulais qu'on s'appuie sur le regard et sur l'expérience d'un pédopsychiatre. Bonjour Romain Dugravier.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chef de service au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Vous êtes membre de la commission 1000 jours, commission d'experts qui s'est penchée sur les premiers mois de la vie des enfants. Et vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle le lien d'attachement. Vous avez participé au livre L'attachement, de la dépendance à l'autonomie aux éditions ERES. Vous me disiez en entrant dans ce studio que le sujet est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, la séparation des parents.
Compliqué parce que c'est parfois une libération pour les parents, mais ça demande nécessairement une adaptation pour l'enfant. Il va subir le choix de ses parents et devoir trouver un équilibre nouveau.
Les statistiques font-elles en effet du mal en la matière ?
Ouais, c'est ce que vous avez très bien dit. Ça paraît banal parce que fréquent, mais c'est jamais banal pour l'enfant qui le vit.
Est-ce que vous constatez une augmentation des consultations de parents sur ce sujet ? Preuve peut-être qu'il y aurait une prise de conscience sur le chagrin réel des enfants ?
Ah oui, je crois que moi je vois beaucoup de parents qui viennent très tôt. Des parents qui se séparent très quand l'enfant est très jeune, c'est-à-dire avant, parfois même avant un an, ou en tout cas avant trois ans, et qui s'inquiètent des conséquences pour leur enfant, qui viennent chercher du conseil, du soutien, pour savoir comment le présenter à l'enfant et comment organiser la vie pour lui.
On va entendre en longueur des paroles d'enfants et d'adolescents concernés au micro de Juliette Proutot. Cette émission en partenariat avec Bayard Jeunesse a été préparée par Margot Page, réalisation Anne-Cécile Perrin avec Gilles Gaillard à la technique. C'est Barbatruc jusqu'à 16h.
Barbatruc.
It's good to be back, Métronomie sur France Inter. C'est Jean-Baptiste Audibert qui signe la programmation musicale de l'émission. Quand les parents se séparent, comment protéger, comment préserver, accompagner les enfants? Nous abordons le sujet cette semaine avec le pédopsychiatre Romain Dugravier et avec Axel Repère, cinéaste, dont le film Petite Solange sort mercredi prochain au cinéma. Un mot qui fait peur, Romain Dugravier, traumatisme. La séparation des parents est-elle forcément un traumatisme pour les enfants?
Non, parce que je crois que le traumatisme, c'est une situation douloureuse qui reste irrésolue. Donc, on ne peut pas épargner le chagrin à un enfant qui doit s'adapter à la séparation de ses parents. C'est sûr qu'il va être triste et il va devoir trouver des ressources. Le traumatisme, c'est autre chose. Le traumatisme, c'est « je suis sans solution ». Or, je crois que vraiment, c'est ça le travail des parents après la séparation, c'est continuer à essayer de penser une parentalité partagée et montrer à l'enfant qu'on se préoccupe ensemble de son bien-être et de son devenir. Donc comment on va organiser sa vie, entre autres.
Je crois pouvoir dire que la petite Solange de votre film, Axel Repère, est bien traumatisée par la séparation de ses parents.
Elle est traumatisée parce que c'est une petite fille particulière et chaque enfant a quand même son tempérament particulier. Elle, c'est une petite jeune fille de 13 ans qui est excessivement tendre et sentimentale et qui est vraiment amoureuse de ses parents, enfin amoureuse au sens romantique du terme.
L'amour prend beaucoup de place dans sa vie.
Elle doit dire vraiment adieu à l'image d'amour de ses parents. Mais sur la question de la différence entre chagrin et traumatisme, je pense pas que chaque divorce soit un traumatisme pour un enfant. Pour moi, il y a traumatisme aussi quand l'enfant assiste à des choses ou entend des propos qu'il ne devrait pas entendre. Et la frontière, elle est souvent compliquée parce que qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre de la séparation de ses parents, de pourquoi ils se séparent? Voilà, c'est une question qui reste brûlante pour un enfant. Pourquoi mes parents se séparent? Et c'est compliqué pour les parents à gérer comme question parce qu'ils doivent une forme de vérité à leur enfant et en même temps, il faut qu'ils censurent. Voilà, notamment, je pense aux questions sexuelles ou aux questions intimes de la vie physique des parents ou aux questions des adultères. Il y a une espèce de d'équilibre qui est compliqué à trouver entre ce qu'on peut dire à son enfant, ce qu'on doit lui dire et les choses qu'on doit garder, nous, pour adultes.
Romain Dugravier, vous allez dans ce sens de la censure nécessaire de certaines parties de l'histoire personnelle des parents?
Je crois que c'est important de tout dire aux enfants, mais qu'on le dit différemment selon les âges, selon les moments. Et que tout, ça ne veut pas dire n'importe quoi non plus. Et je suis assez d'accord sur le fait que la question de l'intimité et de la vie sexuelle reste une question des adultes et qu'évidemment, on ne doit pas y exposer les enfants. Après, ce que vous dites, c'est important parce que ça me faisait penser à plusieurs choses. D'abord, on parle d'amour. On parle aussi bien d'amour dans le couple que d'amour parental. Et que je me dis que pour les enfants, ça peut être confusionnant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la fin de l'amour, l'amour entre deux adultes. Je crois que ça interroge toujours les enfants. Est-ce que c'est possible qu'un jour, moi, on m'aime plus? Ça, c'est un aspect.
Et comment on s'en sort alors de ce problème-là, puisque c'est le même mot?
Parce que je crois que c'est justement ce qu'on évoquait là. L'amour parental, c'est un amour qui s'est construit d'abord autour du désir et de l'envie d'être ensemble. Et que c'est évidemment pas du même registre quand on prend soin de son enfant et que c'est quelque chose qui est inconditionnel et qui va pouvoir... C'est ce qu'on doit garantir au moment du divorce, c'est qu'on restera quand même là en tant que parent pour l'enfant.
Donc expliquer aux enfants, quel que soit leur âge, cette distinction entre différent. L'amour maternel et paternel et l'amour entre deux amoureux.
Ouais. Et puis l'autre point que vous évoquiez qui est très important, c'est la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité des adultes aussi. C'est-à-dire que quand on se sépare, parfois c'est un soulagement et c'est un meilleur équilibre pour les parents, mais c'est aussi exposant, ça nous fragilise. On avait construit quelque chose ensemble, on avait des projets, on se soutenait l'un l'autre. On peut se sentir soi-même très fragile en tant qu'adulte. Et j'imagine que voir ses parents tristes et désemparés peut être pour une jeune adolescente extrêmement troublant.
Troublant et même pénible. Je crois que même à l'adolescence, on a besoin d'avoir des parents forts, de manière un peu naïve, mais les parents sont là pour nous protéger, fondamentalement. Et tout d'un coup, ne pas être encore adulte et se rendre compte qu'on a un parent qui est fragile et vulnérable, c'est pas émouvant, en fait. On peut être ému adulte par ses parents, mais quand on est enfant de naissance, on n'est pas ému par ses parents, on a surtout envie qu'ils nous protègent. Et tout d'un coup, la vulnérabilité inattendue d'un parent, en fait, c'est très déstabilisant et ça peut mettre en colère.
C'est Philippe Catherine qui incarne le père de Solange dans votre film.
Tu sais, c'est quelqu'un de très bien, Gina. Puis elle t'aime beaucoup, d'ailleurs. Puis comment dire, j'espère que tu es pas fâchée contre elle.
Je suis pas fâchée, je m'en fous.
Sois pas grossière, Solange.
En tout cas, je peux te dire que j'irai pas vivre avec toi et Gina dans votre appartement qui fera même pas 30 mètres carrés. Lily, elle doit faire ça avec son père et sa belle-mère et elle doit dormir toutes les nuits sur le canapé lit. Elle dit que ça pue le vieux chat pourri Non, merci. Je préfère rester ici avec maman à la maison, nulle part ailleurs. Sinon, ce sera trop triste. Beaucoup trop triste.
Écoute, Solange, hein, y a le monde des enfants et le monde des adultes. J'espère que tu comprends la différence.
Le monde des enfants et le monde des adultes. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez, Romain Dugravier, de cette formulation en tant que pédopsychiatre.
Ce qu'on voit, c'est qu'elle a tout de suite, ça fait effraction parce qu'elle imagine la vie amoureuse de son père avec une autre femme. Et en écoutant l'extrait, moi je pensais que peut-être qu'elle s'inquiète pour sa mère. Et que si elle s'en fout et qu'elle n'a pas envie d'y être, c'est surtout parce qu'elle se dit, tiens, mon père, il a trouvé un équilibre nouveau dans sa vie, mais comment va ma mère? Et est-ce qu'elle, elle n'a pas besoin de moi?
Est-ce que vous avez l'impression, à l'entendre, que le père banalise le chagrin de sa fille?
Moi, je crois, j'ai l'impression qu'il est perdu, surtout.
Axel Repère.
Alors, moi, j'ai inventé un père qui est vraiment intéressant, parce que c'est pas du tout un père gnangnan qui veut consoler sa fille à tout prix. C'est un père qui assume très fortement d'avoir une vie amoureuse et sexuelle en dehors de la famille, et qui assume très fortement le fait qu'il partira de la famille et qu'il aime ailleurs. Et ça, pour un enfant, c'est inentendable, quoi. Je pense que c'est une des plus grandes violences qu'on puisse ressentir quand on est petit. C'est un de vos parents qui l'explique qu'il aime ailleurs et que c'est comme ça. Et je crois que l'expérience du divorce, c'est vraiment un moment où on fait l'expérience de la trahison. Et le parent qui part et le parent qui trahit.
Moi, je pense que les enfants, ils se trahissent beaucoup. Hein. Je pense au cours de récréation, je crois que c'est qu'une histoire de trahison successive. Mmh. Mais l'enjeu n'est pas le même. Mmh. Et ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est que c'est les personnes qui sont censées veiller sur l'enfant, qui sont censées le rassurer et le protéger, qui lui font vivre l'expérience de la trahison. La trahison entre eux, et puis peut-être parce qu'ils sont trahis, parce qu'ils doivent s'adapter à la séparation.
Cela pose la question aussi du bon moment pour annoncer aux enfants la présence d'un autre conjoint ou d'une autre conjointe. Romain Dugravier, vous avez des conseils aux parents sur ce terrain-là?
On en parle quand on a un projet de vie ensemble. Le jour où il va falloir s'adapter entre éventuellement les deux maisons et une maison où un couple s'est structuré, là je pense que c'est important de pouvoir lui en parler, mais c'est comme ça que je distinguerai.
Écoutons des enfants et des ados. Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro à Paris cette semaine. Quel souvenir garde-t-il de l'annonce de la séparation?
Moi, j'ai plein d'amis de primaire qui pleuraient à l'école, etc. parce que ses parents, ils allaient se séparer, etc. Mais parce qu'ils sont grands, moi, je ne me rappelle plus du tout.
Donc, tu crois que c'est mieux quand on est petit?
Ouais, bah, quand on ne s'en souvient pas.
Ou alors quand on est grand, très grand.
Du coup, mon père et ma mère, ils m'ont dit bon bah voilà, on n'est plus ensemble maintenant. Tu vas rester habiter chez ton père et moi, je vais partir. Mais je reviendrai tous les soirs pour vous voir et tout. Mais voilà, on n'est plus ensemble. Tout le monde était triste et mon père était hyper triste et voilà, et moi aussi du coup.
Moi, j'ai pas compris en fait. Tout le monde pleurait et j'ai pas compris ce qui se passait. Donc je donnais des mouchoirs un peu à tout le monde.
J'avais 13 ans.
13 ans.
Je m'en rappelle très très bien. Et du coup, je pense que la décision a été prise le lundi, parce que ma mère était très triste, elle a quitté la maison, etc. Et ils nous ont annoncé qu'aux deux grandes qui se séparaient, et ils ont attendu le lendemain pour en parler calmement aux deux plus petits qui avaient 5 ans à l'époque. Donc voilà, on est tous les quatre assez liés, donc en fait les deux petits venaient dans la chambre des deux grandes, et on passait des heures et des heures à en parler entre nous, quoi. On rassurait beaucoup les plus petits.
Alors, j'ai relevé un « du coup » qui me semble important. Alors, c'est vrai que ces deux mots sont employés à toutes les sauces aujourd'hui, « du coup ». Mais là, il y a une enfant qui dit « mon père était triste, et moi aussi, du coup ». C'est la contagion du chagrin, Romain Dugravier.
Il n'y a pas plus compliqué que de voir son parent fragile, avoir envie de le réconforter sans en avoir nécessairement les ressources.
Et ce n'est pas la responsabilité ni le rôle de l'enfant.
Et voilà, c'est très important ça, que les parents puissent transmettre ça, que la séparation, c'est une histoire du couple, et que l'enfant n'est pas impliqué dans cette histoire-là, même si ça a des conséquences pour lui. Parce que je crois que les enfants voient le monde autour de leurs propres préoccupations, qui peuvent toujours s'inquiéter de savoir s'ils sont responsables de la séparation des parents.
On peut aussi s'imaginer, du point de vue du parent, que c'est un apprentissage de la vie, hein, pour le dire vulgairement. Voilà, j'ai du chagrin, je suis humaine, et je peux te le montrer, mon chagrin, en tant que parent.
Oui, le but n'est pas de cacher nos émotions aux enfants. De toute façon, ça a été dit, je crois que quelqu'un le disait. De toute façon, ça transparaît. Mais c'est encore une fois, c'est la vulnérabilité. C'est pas du même ordre. C'est-à-dire le chagrin, la tristesse, mais avoir suffisamment de ressources. L'enfant, il a besoin qu'on puisse lui garantir qu'on sera là pour lui s'il est en détresse.
Une question compliquée aussi a été abordée. C'est mieux quand on est petit, disait l'un de ses enfants. Quel est votre regard de pédopsychiatre là-dessus, sur la différence en fonction de l'âge des enfants?
Alors que je crois pas du tout ça. Je pense que c'est plus on est jeune, plus c'est compliqué. en particulier dans la toute petite enfance. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'avais pas mal de parents qui venaient consulter à ce sujet. Pourquoi c'est plus compliqué pour les petits? Parce que ils ont besoin qu'on organise leur monde. Aussi bien les notions d'espace que les notions de temps. Et que ce sont les parents qui organisent ça. Donc quand cet espace et ce temps sont bouleversés par les changements occasionnés par la séparation, ça peut être très déstabilisant pour les enfants. Et l'autre point important, c'est qu'un enfant, il se construit en s'appuyant sur ses deux parents, sur la sécurité qu'ils peuvent lui procurer tous les deux. Et quand ils vont se séparer, il va devoir s'adapter à être avec l'un et pas être avec l'autre. Et donc il va devoir toujours accepter de renoncer à la présence d'un de ses parents.
Le personnage de votre film, Axel Repère Solange, à 13 ans, il y a une phrase saisissante de son père qui lui dit « c'est interdit de pleurer comme ça quand on a 13 ans ». Alors, il le dit sur le ton de la plaisanterie, mais elle est très dure, hein, cette phrase.
Oui, parce qu'elle a cet âge qui est compliqué, où elle est encore une petite fille, mais elle est en passe de devenir une adolescente. Donc, on attend d'elle qu'elle se comporte comme une adolescente mature, alors qu'en fait, elle a encore des affects de petite fille. Mais à l'adolescence, et ça, c'est quelque chose qui est dans le film, même si c'est pas du tout le fil primordial dans le film, c'est que quand on commence par exemple à avoir une vie amoureuse ou à avoir des flirts, etc., je pense que c'est très compliqué de commencer sa vie amoureuse, de commencer à rêver sexuellement et amoureusement, voilà, et d'avoir des parents qui crisent à la maison. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très en conflit, qui est la crise conjugale, et comment moi, je, avec des parents qui crisent, comment moi je peux commencer à me construire amoureusement. Je pense que c'est pas simple. D'ailleurs, mon héroïne à moi n'a pas du tout de vie amoureuse, et ça dit quelque chose. Elle peut pas faire les deux en même temps. Elle peut pas régler la crise conjugale et s'occuper de sa vie privée.
Ça prend trop de place.
Oui. Hein.
Romain Dugravier.
C'est vrai, il n'y a pas de bon âge pour le divorce des parents. C'est de toute façon, ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts à l'enfant. Et ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Parce qu'on insiste sur l'importance de ces repères stables avec au moins un adulte. Donc ça veut dire de rester, avoir une résidence principale avec l'un des parents. Mais comment faire pour préserver le lien avec l'autre parent? Donc ça demande sans arrêt aussi un effort de la part des deux adultes pour trouver un consensus qui permet que l'enfant trouve sa place avec chacun.
C'est l'occasion de préciser qu'en France, 12% seulement des parents qui se séparent font le choix de la garde alternée. Chiffre de l'INSEE qui date de 2020. Dans la majorité des cas, encore aujourd'hui, le ou les enfants restent chez leur mère et vont de temps en temps passer du temps chez l'autre parent. On poursuit cette réflexion dans un instant. J'ai un conseil de lecture à proposer aux ados entre 12 et 15 ans environ. Le magazine Je Bouquine du mois de février qui est déjà en kiosque et qui fait sa une sur un sujet ô combien fédérateur chez les ados, les mangas, dossier spécial manga, avec un focus sur One Piece, évidemment, phénomène mondial, dont le tome 100 vient de paraître, et puis une rencontre avec une mangaka, une autrice de manga, elle s'appelle Fujimomo, on lui doit la saga Ellie, elle raconte ici ses débuts, la façon dont elle travaille et ses mangas préférés, voilà qui devrait intéresser vos ados, rencontre avec la mangaka Fujimomo dans le Je Bouquine de ce mois de février qui est déjà en kiosque. Voici Orelsan sur France Inter.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. allergique à la vie, les matins sont obscurs, comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Vous ouvrez vos manuels, page 234. Paul Verlaine, qui est-ce qui va nous lire le poème d'aujourd'hui? Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Solange, je suis venue, calme orphelin.
Je suis venue, calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes, ils ne m'ont pas trouvé malin.
Plus fort, je n'entends rien.
À 20 ans, un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belle les femmes, elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre, la mort n'a pas voulu de moi. Suis-je née trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard.
Bienvenue, vous pouvez laisser un message.
Bonjour, monsieur et madame Maserati. C'est madame Stein, la professeure de français de Solange.
Allô, bonjour, c'est Aurélia Maserati, je suis la mère de Solange.
Oui, bonjour. Voilà. En fait, votre fille a pleuré pendant la récitation d'un poème de Verlaine. Et c'était vraiment impressionnant.
Elle a pleuré? À ce point?
Oui. J'aimerais bien en parler avec vous.
Jade Springer et Léa Drucker dans le film Petite Solange qui sort au cinéma la semaine prochaine, un film d'Axel Roper qui est mon invité cette semaine, récit d'un divorce vécu à hauteur d'enfant. Ce n'est pas une tragédie, disait-on tout à l'heure, mais un mélo au sens noble du terme. La nuance est importante parce que ce film n'est pas sombre, Axel Roper. Solange est très attachée à l'amour, peut-être beaucoup trop. L'amour entre ses parents semble prendre une place importante dans son cœur et dans sa vie. Est-ce que vous diriez que les parents s'en sortent bien dans cette histoire?
Le film n'est pas une tragédie pour une raison un peu paradoxale et qui va peut-être paraître un peu provocante, mais que le divorce est une expérience extrêmement violente et douloureuse. Mais moi qui suis une enfant divorcée, je me dis que c'est peut-être une chance pour un enfant. Une chance en tout cas, il aura peut-être quelque chose que n'auront pas les autres enfants, et qui est d'avoir une expérience de vie violente précoce et d'avoir appris un petit peu tôt cette vérité toute simple que normalement on n'apprend pas enfant ou adolescent, qui est que l'amour se termine toujours. Voilà. Et que les choses sont périssables. Et que même ce qui est fondateur pour vous, en fait, peut se terminer du jour au lendemain. Alors, normalement, c'est le genre de choses qu'on apprend à partir de 18 ans, quand on est un peu constitué et un petit peu cuirassé. Mais je suis persuadée que et je l'ai éprouvé autour de moi, que ceux qui ont vécu ça trop tôt, d'une certaine manière, ont peut-être une force supplémentaire plus tard que n'ont pas les enfants qui ont une vie très heureuse jusqu'à 18 ans. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on va pas dire à un enfant de 8 ans, t'es très très mal, mais tu verras quand t'auras 20 ans, ça sera une force supplémentaire. Mais c'est une manière de se dire que tout n'est pas perdu pour ces enfants.
Cela n'empêchera pas sans doute certains parents séparés qui iront voir votre film de se sentir un peu coupables. C'est un sujet auquel vous avez réfléchi, Axel Roper?
Alors je crois qu'il faut surtout pas encombrer les enfants avec la culpabilité. La culpabilité d'un parent, ça fait pas du tout de bien à un enfant. Voilà, c'est pas du tout par ce biais-là qu'il y a réparation. Et il faut faire la différence entre la culpabilité triste et plombante et le fait qu'un parent se sente responsable et apprécie à sa juste mesure le mal qu'il a pu faire à son enfant, ce qui n'est pas la même chose. Mais la culpabilité d'un parent, c'est embarrassant et ça aide pas du tout un enfant. Donc il faut s'en débarrasser, voilà.
Compliqué ça, de se débarrasser de la culpabilité. Romain Dugravier, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre.
Oui, c'est pas toujours possible. Et puis il y a la culpabilité de l'enfant aussi, qui peut parfois se sentir responsable, à tort, mais se sentir responsable de la séparation de ses parents. C'est un mécanisme fréquent qu'on retrouve chez l'enfant, qui se demande qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire pour que ses parents restent ensemble. il faut envisager ça comme un processus. C'est-à-dire comment les parents... Il n'y a pas que la question de l'annonce de la séparation. Il y a comment on va ensuite l'accompagner ensemble et essayer de rester respectueux ensemble de notre parentalité pour l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant. Tous les parents ont cette idée-là, mais ça demande un effort très important de continuer à se demander d'abord qu'est-ce qui est bien pour lui et puis ensuite comment comprendre ses manifestations. Plus l'enfant est jeune, plus c'est difficile de comprendre ses réactions. On a entendu tout à l'heure une petite fille qui disait « je faisais des crises ». C'était sa façon d'exprimer sa tristesse. Comment continuer à se parler en tant que parents, ensemble, des manifestations de notre enfant dans son intérêt? Non pas pour se renvoyer des désaccords et une façon de considérer le développement ou les manifestations de l'enfant, mais tiens, qu'est-ce qu'on en comprend tous les deux? C'est ça que moi je vis en consultation. Des parents qui viennent et qui disent oh, « chez moi, elle s'endort tout de suite. Chez moi, elle met plus de temps à s'endormir. » Comment est-ce qu'on peut le comprendre tous les deux?
Important aussi, évidemment, de ne pas dénigrer l'autre parent aux yeux de l'enfant.
Oui, c'est crucial parce que nous, les adultes, on ne s'aime plus. Mais l'enfant, lui, continue à aimer ses deux parents. Et quand il entend l'un des parents dire du mal ou dire tout ce qu'il a à reprocher à l'autre, évidemment, il se retrouve pris dans ce fameux conflit de loyauté et il se demande comment se débrouiller avec ça. Gardons en tête que nos enfants, dans ce moment-là, ont besoin de continuer à pouvoir aimer les deux.
D'autant qu'il y a cette fameuse, presque une comptine, hein, que les enfants aiment bien. Les amis de mes amis sont mes amis. Si mes deux parents ne s'aiment plus, ça ne fonctionne pas.
Alors ça, c'est moi, c'est quelque chose qui m'obsède, c'est comment on fait. Il y a peu de situations, comme le divorce, où on demande à des gens de continuer à aimer des personnes qui ne s'entendent plus.
Ça arrive en amitié, ceci dit, dans la cour de récré aussi, parfois.
Ouais, mais souvent, on se retrouve à choisir, à se dire, moi, je vais être plutôt avec un tel qu'avec un tel. Là, on peut pas choisir, et c'est justement comment les parents aident à ce qu'on ne choisisse pas et continuer à préserver les liens avec les deux.
Des mots d'enfants et d'adolescents, à nouveau, sujet difficile à éviter, hein, les avantages et les inconvénients de la séparation des parents.
Il y a un avantage, c'est-à-dire que si par exemple on est dans un immeuble et que l'autre il a un jardin, t'as un avantage qu'il y a un jardin. Ou t'as un avantage, par exemple avec ma maman on a un chat, t'as un avantage d'avoir un chat et pas avec mon papa. Mon papa il aurait pas forcément voulu. Enfin, si, il aurait voulu, mais ça dépend des papas.
Le papa qui veut faire plaisir le week-end, c'est sympa. Les petits cinémas comme ça, alors qu'on en avait moins avant, ce genre de choses. C'est ça, il y avait une compensation. Et le fait que quand on était avec notre père, du coup, il prenait vraiment du temps pour nous.
T'as plus de liberté, en fait, je trouve. Parce qu'il n'y a pas de conseil de famille où ton père m'a dit que t'avais fait ça, ou ta mère m'a dit que... mais par contre, c'est vrai que la garde alternée, surtout que j'ai connu longtemps, moi, du coup, c'est pas très chouette, quoi. Parce qu'on déloge un peu l'enfant de son nid, et ça, c'est l'aspect pas très cool.
Je sais qu'il y a des gens qui gardent une maison pour les enfants, et c'est eux qui déménagent la semaine où ils les gardent pas. Je pense qu'il faut trouver la solution qui satisfait le plus de monde, quoi.
Je pense pas qu'il y ait de solution parfaite, mais en tout cas que les parents soient présents. Parce que s'il y en a un qui sait qu'il sera pas dispo cette semaine-là, bah autant qu'il reste chez l'autre, voilà.
Je vous jure, c'est divorce, mais... Même plus ils me revoient dans leur maison. Je vais chez mes grands-parents. Moi, je les insulte de toutes mes forces. Je vais redire un gros mot. C'est des bâtards ceux qui font des enfants et après ils disent ouais, on s'aime plus.
Il y en a qui sont mieux quand ils sont séparés, ils sont plus heureux. Et ils restent amis et ça va.
Ils divorcent qu'ils s'insultent tout le temps.
Des propos recueillis par Juliette Proutot. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Romain Dugravier. Et notamment, la garde alternée, c'est pas chouette. Ça, c'est une adolescente qui le dit, elle l'a vécu. C'est un sujet qui suscite du débat au sein même des pédopsychiatres, la garde alternée.
Oui, c'est ce qu'on disait. C'est être avec l'un, c'est nécessairement ne pas être avec l'autre. Donc ça demande un effort à l'enfant.
Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter à tout prix,
non,
évidemment.
Non. Et puis, encore une fois, c'est important de pouvoir préserver les liens avec chacun. Mais s'il y a une question d'âge, et donc un enfant qui n'a pas d'idée de ce que veut dire demain, de ce que veut dire dans quelques heures, imaginez une garde alternée, vous voyez bien que ça a peu de sens. C'est-à-dire partir une semaine, ça n'a aucune signification pour l'enfant. Et je crois que c'est vrai pour les lieux aussi. Les très jeunes enfants ont besoin d'avoir des lieux familiers dans lesquels ils peuvent se retrouver, qui sont la maison, l'endroit où on se sent à l'abri. Et quand on change de lieu régulièrement, ça peut être complexe. Mais surtout, il y avait la question de la solution. Il parlait de la solution sur est-ce que la même maison, et puis c'est les parents qui changent, c'est la solution idéale ou pas. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il y a des adaptations successives en fonction des périodes.
Et se débarrasser de cette quête de la solution, c'est le premier pas.
Voilà. Et c'est comment on maintient une réflexion, voire un dialogue, qui permet de l'adapter en fonction de ce que nous manifestent nos enfants aussi. Et donc, c'est l'importance d'avoir aussi des tiers où on y arrive tous les deux. Parce qu'on a, malgré la séparation, on garde en tant qu'adulte cette capacité à se préoccuper de ce que vit l'enfant. Ou alors on cherche des tiers. Et je pense que, moi, j'insiste beaucoup sur le tiers d'abord symbolique. Parce que passer devant le juge des affaires familiales qui signifie comment la vie doit être organisée pour l'enfant, ça a du sens, c'est important. Mais c'est une dimension seulement. Vous savez, il y a les fameux médiateurs. Mm-hmm. Les médiateurs, ça permet quand même d'avoir un espace de réflexion entre adultes pour présenter quelque chose à l'enfant qui va avoir du sens pour lui. Et puis les consultations, ça peut être aussi l'occasion, une consultation chez un pédopsychiatre, l'occasion de réfléchir ensemble et s'interroger sur les manifestations de l'enfant pour s'adapter à lui.
Est-ce que vous avez vu peut-être l'un et l'autre le film ou la série L'amour flou de Roman Boringer avec cette histoire vraie d'un couple qui se sépare mais qui s'installe dans un sépartement, deux appartements qui sont reliés par la chambre des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma ?
Moi, personnellement, c'est un schéma qui me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que ça rajoute de la confusion à la violence et qu'il vaut mieux que... Je crois que les enfants ont besoin de clarté et de règles très tranchées. La vie sexuelle de mon père divorcé n'est pas celle de ma mère divorcée. Les deux vies sont séparées, qu'il vaut mieux un tout petit peu radicaliser les frontières plutôt que les mêler de manière un peu artificielle. Enfin, dans la série, c'est très plaisant parce que c'est une utopie. Dans la vraie vie, la confusion n'est pas la bonne amie, voilà, des enfants. Pour en revenir juste à la question du tiers nécessaire là dans une séparation, moi je crois aussi qu'il y a un rôle très important à jouer pour les gens de la famille en fait. Moi par exemple, bon, je suis une enfant divorcée et mon frère et moi on a beaucoup bénéficié en fait de nos grands-parents. On avait des grands-parents qui sont nés dans les années 1915-1920, donc qui étaient des personnes vraiment d'une autre génération qui ne comprenaient rien au divorce. Vraiment pour eux c'était une aberration, mais qui de manière très spontanée ont joué le rôle de contrepoint, de refuge, et qui ont senti que mon frère et moi on avait besoin de trouver des refuges de paix dans la famille et qui ont joué vraiment ce rôle-là. Je pense qu'il faut pas hésiter à se mêler de la vie d'un enfant qui est pris en difficulté entre ses deux parents et à essayer de lui créer un refuge de paix régulier sur lequel il puisse compter.
Le personnage de Solange est-il imprégné de votre expérience?
Moi, j'étais une adolescente très différente et très en colère contre mes parents, donc pas du tout pleine d'amour, mais évidemment, on a des affects en commun. Il y a notamment quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la manière dont un enfant n'a jamais accès à la vérité globale de la séparation de ses parents, la vérité conjugale, mais en fait ne récolte que des indices qu'il essaye d'interpréter. Je crois vraiment que nos enfants sont des détectives de l'histoire familiale et que dans le film, il n'y a pas du tout de scène frontale qui raconte la dispute des parents. Il n'y a que des indices et des bribes. Par exemple, mon héroïne, elle guette avec son oreille, elle entend une porte qui claque violemment, elle comprend qu'il y a une dispute qui a lieu. Tout passe par des bribes. Et ça, je trouve que ça rencontre bien le côté petit détective des enfants.
Essayons d'inverser le mouvement, tenez. Ce sont des enfants à présent qui vont donner des conseils aux parents qui nous écoutent pour que leurs enfants vivent au mieux la séparation. Nous avons demandé à ceux et celles que Juliette Proutot a croisés.
La première chose, c'est d'abord d'être totalement honnête avec les enfants et de ne pas leur mentir parce que les enfants, ils comprennent énormément de choses. Donc, être totalement honnête et transparent sur ce qui se passe. Et ensuite, les parents... Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, on m'a demandé mon avis, mais j'avais 8 ans, j'ai pas d'avis à 8 ans. On m'a demandé chez qui je voulais vivre. Et moi, j'ai choisi personne. J'ai juste dit, je veux rester dans mon école. Des trucs d'enfant. J'aurais aimé qu'ils me demandent pas et qu'ils fassent ce qui aurait été le mieux pour moi. Et je pense que ça aurait été d'aller chez ma mère. Ça crée beaucoup de conflits après sur quel est le parent préféré ou voilà. Donc non, vraiment, le dire, rester calme. Que les deux parents ne s'engueulent pas devant les enfants aussi, c'est hyper important.
Peut-être, par exemple, déjà si c'est une mère qui garde son enfant, bah, qu'elle ne prive pas son enfant de voir son père.
Et se mettre d'accord sur les conditions avant de l'annoncer aux enfants pour pouvoir exposer un plan assez clair de comment ça va se passer ensuite.
De vraiment pas mettre les enfants au milieu de tout ça en fait et pas faire le pigeon voyageur parce que c'est très dur à gérer ça.
Qu'est-ce que tu aimerais dire un petit peu à des enfants dont les parents vont se séparer ?
Leur dire, leur rassurer qu'ils vont toujours être en lien, qu'il va y avoir une garde alternée, que ça va être égal les vacances, qu'ils vont toujours être amis. Enfin, ça, c'est très rassurant.
Que ça ne va pas trop les impacter, que leurs parents vont continuer à les aimer, que ça va aller. Ça sera différent au quotidien, mais ça va le faire.
Elle est saisissante, cette image du pigeon voyageur, je trouve, Romain Dugravier.
Ouais, et puis tout ce qui est dit est très impressionnant, ils le disent mieux que nous.
Il y a de bons conseils, en effet.
Ils viennent de dire exactement ce qu'on essayait d'évoquer sur la difficulté quand c'est confus, et quand les parents ne sont pas capables de raconter comment ils imaginent la vie ultérieurement.
Donc d'abord, on décide comment vont s'organiser les choses et ensuite, on en parle aux enfants.
Et pareil, demander aux enfants de choisir, c'était très bien dit, ça, le conflit dans lequel peut être pris l'enfant, en disant, selon ce que je dis, qui va être avoir l'impression d'être préféré ou pas. Enfin, c'est de les mettre dans des positions impossibles. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les enfants, ils ont besoin que les adultes tiennent une position et leur disent comment ils pensent ce qui est le mieux pour eux et qu'ils l'ont pensé ensemble.
Axel Repère, je crois que vous avez préparé votre film « Petite Solange » en allant traîner sur les forums de discussion autour de ce sujet. Qu'est-ce que vous y avez appris ?
Alors, j'ai fait une recherche internet sans conviction, en pensant que c'était une recherche vraiment qui était vouée à l'échec. J'ai cherché forum enfants de divorcés. Je pensais pas du tout que ça existait.
Et c'est un océan, en fait.
Oui, comme c'est une expérience dont on parle assez peu, je pensais que j'étais un peu isolée dans l'importance que ce sujet avait pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des forums qui sont dédiés uniquement à cette question d'enfants de divorcés désormais adultes et qui parlent de ça. Ce qui est très frappant, c'est que, quelle que soit la classe sociale, l'origine, le parcours, les études, il y a pas tellement de différence en fait, voilà, entre un enfant de parents divorcés bourgeois et un enfant de parents divorcés boulangers. Voilà, il y a ce même sentiment d'abandon, de solitude, d'angoisse. Donc c'est très très émouvant de voir qu'il y a un fond commun. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est qu'il y a voilà, que deviennent ensuite ces, moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup, que deviennent ces adultes qui ont été des enfants divorcés. Et il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. Il y a l'école de ceux qui veulent reconstruire à tout prix une vie familiale hyper solide et hyper carrée et qui sont obsédés par l'idée d'avoir une vie de couple très tôt, d'avoir une vie très carrée et de construire une vie conjugale dans le ciment. Et il y a d'autres qui est l'école un peu plus sceptique, qui a beaucoup de mal à croire à l'engagement sur la durée, avec des gens qui ont des vies sentimentales plus agitées, plus versatiles. Voilà, et c'est intéressant de voir la manière dont c'est tellement important, cette histoire de chagrin lié au divorce, que ça influe même la manière dont on construit sentimentalement sa vie 15, 20 ou 25 ans plus tard.
C'est un sujet compliqué que vient d'aborder Axel Repère, Romain Dugravier, l'influence de la séparation des parents sur la vie amoureuse de ces futurs adultes. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à vos consultations ?
Moi, je rencontre les situations qu'évoquait Axel Repère, aussi bien des parents qui, parce qu'ils ont vécu l'expérience de la séparation, ont l'idée que leur couple va être inaltérable, et qui donc sont très très déstabilisés quand celui-ci est remis en question, et d'autres qui viennent perclus de doutes dès le départ, et qui ont cette idée que les relations sont faites pour un jour, les relations amoureuses sont faites pour un jour pour s'interrompre.
Il y a cette crainte de la part des parents qui se séparent de massacrer les idéaux des enfants et de se dire qu'ils n'y croiront plus jamais en l'amour.
Oui. Je crois qu'on s'occupe de nos enfants en tant que parents avec une part de notre infantile. Et donc, évidemment, les expériences qu'on a traversées, ce qu'on a vécu, vient nourrir la façon de s'occuper de nos enfants. Mais la question, encore une fois, n'est pas d'épargner le chagrin, c'est de faire que ça puisse être supportable pour tout le monde et que l'enfant puisse trouver des repères nouveaux.
C'est bien une chose que je retiens de tout ce que vous dites, effectivement, c'est ça, accueillir le chagrin, lui laisser une place, ne pas le minimiser. Est-ce qu'il existe forcément, ça doit arriver, un enfant qui a l'air de le prendre très bien, qui a l'air d'aller très bien quand ses parents se séparent, vous êtes du genre à conseiller de chercher le chagrin même si on ne le voit pas ?
En tout cas, je pense que le but, c'est de ne pas le relativiser. C'est nécessairement une adaptation très importante pour tout le monde. Donc c'est pouvoir accueillir le fait que c'est une adaptation avec des fluctuations. Les enfants peuvent nous surprendre, ils peuvent en apparence sembler relativement adaptables et vivre ça sereinement. Et puis ça émerge de manière impromptue. Il faut être prêt à accueillir ces moments-là.
Et je crois que le divorce, c'est aussi un moment où un enfant fait l'expérience de la perte. Voilà. Et l'expérience de la perte, c'est, voilà. Enfin, je pense que grandir, c'est faire fondamentalement l'expérience de la perte. Et d'ailleurs, en travaillant le scénario, je lisais Winnicott, et notamment une série de cas cliniques qu'il a étudiés sur des enfants qui se mettent à être des délinquants, à être des voleurs. Et, on voit ça dans les 400 coups aussi de François Truffaut, et ça m'a toujours fasciné, ces enfants qui se mettent à faire des conneries alors même qu'il y a une crise familiale à la maison. Il y a forcément un rapport entre les deux. Moi, je l'avais jamais compris. Et Winnicott expose très bien cette idée qu'un enfant, dans le fond, vole ce qui lui a été soustrait. Voilà. Alors, ça peut être un carambar ou une console de jeu, mais dans le fond, l'enfant vole ce qu'il est en train de perdre, à savoir l'amour familial. Et d'ailleurs, j'ai mis ça dans Petite Solange, où à un moment donné, elle fait un vol complètement aberrant. Elle vole un soutien-gorge qui est
même
de
pas
taille,
à sa taille,
même pas à sa taille, qui est pour Marilyn Monroe, alors qu'elle, elle est toute androgyne. Et j'aime beaucoup cette idée des conneries qu'on peut se mettre à faire à l'adolescence quand il y a une crise à la maison et que ces conneries, en fait, racontent quelque chose. En l'occurrence, la perte, voilà, qu'on est en train de faire.
Et vous parlez des 400 coups, Axel Repère. Alors, je ne dévoile surtout pas la fin de votre film, mais j'ai cru voir un hommage à Truffaut dans la scène finale, un regard qui se tourne vers la caméra. Solange, c'est la petite nièce d'Antoine Doinel?
C'est la petite sœur. Moi, je l'ai vraiment conçue comme si Antoine Doinel était vivant aujourd'hui. Quelle petite sœur il aurait pu faire qui ferait comme lui l'expérience de la perte, de l'abandon, de la solitude, et voilà. Et c'est petite Solange. Donc oui, il y a un lien familial construit dans le film.
Je vous voyais opiner du chef sur Winnicott, Romain Dugravier.
Oui, parce que ce qu'évoque Axel Repère, moi je connais bien ces articles-là, ils sont passionnants sur les conduites transgressives qui seraient une façon de déplacer sur le monde la colère qu'on peut éprouver ou la détresse qu'on a pu éprouver des séparations, des pertes précoces. Il y a Winnicott, il y a Bowlby aussi, qui est un auteur majeur dans ce registre-là. Un enfant, il a besoin que les adultes lui présentent le monde et lui construisent un monde qui soit suffisamment contenant et rassurant, au moins dans un premier temps. Et ça lui permet d'intérioriser des images, des représentations de la sécurité dans la relation. Ça, c'est les premiers temps. Et quand ces images-là sont en place, les expériences de perte peuvent être appréhendées un peu différemment. Et la perte et la séparation, il peut y avoir un continuum, mais il y a une question de la perte définitive ou pas. Et c'est ça la crainte qui peut être dans le divorce, c'est est-ce que je vais définitivement perdre l'un de mes parents?
Il y a beaucoup de livres jeunesse qui abordent évidemment ce sujet du divorce pour tous les âges. Je voudrais vous recommander en particulier celui d'Agnès de Lestrade et Tiziana Romain, un album pour les enfants à partir de 3-4 ans qui s'appelle « La grande aventure de Petit Tout ». Monsieur Tout et Madame Tout s'aimaient tellement qu'ils ont eu un merveilleux Petit Tout. Il a grandi entouré de leur tendresse, se sentant à l'abri de tout. Mais un jour, Madame Tout et Monsieur Tout ne s'aiment plus. Petit Tout se demande comment une telle chose est possible. Madame Tout s'installe dans une nouvelle maison et bientôt, Monsieur Rien, comme décide de l'appeler Petit Tout, vient y vivre aussi. Madame Tout et Monsieur Rien s'aiment tellement qu'ils fabriquent un petit quelque chose que Petit Tout a envie d'appeler Rien du Tout. C'est un livre très sensible, très doux et drôle qui met des mots sur les inquiétudes des enfants sans dramatiser. La grande aventure de Petit Tout, édition Sarbacane. Quoi d'autre au rayon jeunesse des librairies? Voici Denis Chessou à présent pour l'actualité du livre pour enfants. Au programme cette semaine, de très belles rides et un rêve de mère. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La tulipe, mon clou.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Oui, on débute par une vieille histoire de Suzy Morgenstern et Serge Bloch aux éditions Sarbacane à partir de 6 ans. Notre héroïne du jour, tu l'as forcément déjà croisée.
Dans la rue ou au marché. Mais oui, c'est elle. Regarde-la avec son filet à provision.
Il s'agit de cette vieille dame qui peut-être t'arrache un soupir d'agacement.
As-tu déjà marché impatiemment derrière elle qui se traîne avec courage?
Alors avant, elle lisait beaucoup, comme toi.
Mais elle n'aime plus lire, ça lui fatigue la vue. Elle ne tricote plus.
Ne s'aventure plus trop à l'extérieur non plus. Son médecin lui a dit d'être prudente. Alors elle a beaucoup de souvenirs auxquels elle peut réfléchir. Tu peux les lire sur son visage, gravé par plus de 3/4 de siècle de sourires, de mauvais jours et de rires.
Il y a aussi l'oubli. On pourrait remplir des cahiers entiers de tout ce qu'elle a oublié.
Elle se dit, oh, de toute façon, si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain. Mais sa mémoire ne manque pas de la rattraper.
Ses pensées retournent à l'année 1942. Son mari s'est évadé d'un camp de prisonniers de guerre et elle n'aura plus de nouvelles de lui jusqu'en 1945.
Malgré les épreuves, elle ne changerait rien de ce qu'elle a vécu.
Elle a vu la beauté du paysage et l'inconfort de la route.
Son voyage était dur, son voyage était doux.
Elle n'a pas envie de repasser par le même chemin.
Et elle sait qu'il n'y a qu'un seul chemin.
Celui qu'on prend.
Alors une vieille histoire, hein, c'est un des premiers livres de Morgenstern qui retrouve une nouvelle jeunesse dans le catalogue de Sarbacane.
Et si les années ont passé, pour le livre comme pour l'héroïne, le sujet abordé ne prend pas une ride.
Il est question ici du temps qui passe, pour soi comme pour les autres, où les personnes âgées d'aujourd'hui sont les enfants d'hier, avec leur parcours et leur mémoire.
Donc ce livre invite à l'empathie.
Au tissage de liens et à la prise de conscience que la vie est faite de bons et de moins bons moments.
Alors, par la délicatesse de ses illustrations, Serge Bloch nous enveloppe dans une atmosphère mélancolique, mais propice à l'écoute et à l'immersion dans le quotidien d'une vieille dame et dans une vieille histoire. Donc, cet album apportera une touche d'humanité supplémentaire à votre bibliothèque et vous donnera sans doute envie de passer un petit coup de fil à vos aînés. Aux éditions Sarbacane, c'est à partir de 6 ans. Le rêve de Jonas est signé Marliès van der Velde aux éditions Kaléidoscope à partir de 5 ans. Lorsque nous rencontrons Jonas pour la première fois, il a 2 ans.
Jonas est dans sa poussette sur la plage, pour la première fois de sa vie. Il entend quelque chose au loin qui l'intrigue.
C'est une grande étendue d'eau qui semble l'appeler la mer.
L'eau lui chatouille les orteils, les vaguelettes montent et descendent.
Jonas ne peut pas résister, il se jette dans l'eau.
Jonas se laisse porter par les courants. Tout de suite, il sait qu'il est chez lui, là, dans la mer.
Mais en voulant imiter les poissons, il gobe de l'eau salée et se fait repêcher immédiatement par sa mère.
Bah, un petit garçon, sa vie sur la terre ferme, pas dans la mer.
On retrouve Jonas, 6 ans plus tard, il a 8 ans.
Il barbote dans un bateau construit avec un parapluie. Mais une corde qui le retenait lâche.
Un Jonas tout dépité est de retour sur le sable. Les pêcheurs le laissent là et rient de bon cœur. Il a désormais 18 ans.
Jonas s'avance sur la jetée dans une tenue de plongée de sa fabrication.
Sous l'eau, tout paraît sous contrôle. Et il peut même se rapprocher des poissons.
Ouf ! Une énorme vague rejette Jonas sur la plage. Les pêcheurs rient comme des baleines.
Alors après cette énième moquerie, c'est maintenant à 30 ans que l'on retrouve Jonas.
Depuis des années, Jonas cloue et scie. Il manie ses outils et ses idées de génie.
C'est une véritable fusée des mers qu'il a réussi à bricoler. Alors celle-ci prend immédiatement la direction des profondeurs. Mais le périple est hélas de courte durée.
Misère ! Jonas se sent hissé hors de l'eau. Les pêcheurs sont pleins d'espoir.
Mais non, ce n'est qu'un Jonas qu'ils ont attrapé dans leur filet.
Les années passent. Jour après jour, Jonas ramasse les offrandes de la mer. Tout ce qu'elle dépose pour lui sur le rivage.
Et puis un jour, Jonas a 80 ans.
Par une nuit d'hiver, une tempête forcenée se déchaîne. Jonas sort de chez lui d'un pas décidé. C'est sa chance.
Et cette fois, ce sera la bonne. Alors, Le rêve de Jonas est un album qui manie avec brio l'art de l'action et de la contemplation. Et avec ce personnage que l'on suit tout au long de sa vie retracée de façon elliptique, il est facile de comprendre donc l'attrait que la mer a sur ce héros grâce aux pages, aux illustrations profondes, parfois sans texte, comme une respiration sous l'eau.
C'est aussi un récit sur la patience.
La persévérance et l'écoute de soi, quoi qu'en pensent les autres. C'est donc un album absorbant pour toujours continuer à croire en ses rêves aux éditions Kaléidoscope à partir de 5 ans de Marliès van der Velde, Le rêve de Jonas. Merci à Anne-Cécile Perrin pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et une bonne fin d'émission, Dorothée.
Merci beaucoup Denis, on retrouve à la page de Barbatruc sur franceinter.fr les références des livres conseillés dans L'as-tu lu mon petit loup. Nous approchons de la fin de cette émission, la cinéaste Axelle Repère et le pédopsychiatre Romain Dugravier sont toujours à mes côtés. Dernière question, question rituelle de cette émission, j'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Romain Dugravier.
J'y ai pensé, je crois que c'est le parfum de ma mère, c'était l'heure bleue de Guerlain.
Voyage dans le temps immédiat.
Ah oui.
Et vous, Axel Repère?
Bah, c'est complètement fou parce que moi, c'est le même souvenir. Je suis désolée.
Et c'est le même parfum?
On s'est pas du tout concerté. C'est l'heure bleue de Guerlain qui était le parfum de ma grand-mère. Et que c'est je génial. Ne peux pas entendre dans la rue. Quand je le sens dans la rue, le fantôme de ma grand-mère est là. Voilà. Et
Vous venez de faire un très joli lapsus. Hein. Vous entendez oui. Du parfum dans la rue. Voilà, on salue Laure Adler au passage. L'heure bleue, c'est aussi sur France Inter. Merci beaucoup à tous les deux. On met précieusement ce parfum sous cloche. Il rejoint la recette secrète du parfum de l'enfance. Romain Dugravier, je rappelle le titre de l'ouvrage collectif auquel vous avez participé. L'attachement de la dépendance à l'autonomie aux éditions RS dans la collection Enfance et Psy. Et puis je recommande très vivement ce film qui sort au cinéma la semaine prochaine. Petite Solange avec Jade Springer qui est exceptionnelle dans le rôle de l'adolescente. Jeune comédienne au regard si profond, avec Léa Drucker et Philippe Catherine dans le rôle des parents qui divorcent. Petite Solange, le 2 février au cinéma. Bonne journée à tous les deux et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Dans un instant, on retrouve Daniel Fievet. Le temps d'un bivouac, au programme Un hiver dans l'Himalaya. Il sera question d'un documentaire à voir sur Arte. Zanskar, les promesses de l'hiver.